Avec Eric, nous allons vous lire les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse. Lorsqu'il ouvrit le septième sceau, il est question de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de l'encens monta avec les prières des saints de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
Le deuxième ange sonna. Quelque chose comme une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures vivant dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit.
Le troisième ange sonna. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent des eaux, devenues amères.
Le quatrième ange sonna. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour qu'il soit obscurci d'un tiers, et que le jour perde un tiers de sa clarté, et la nuit aussi.
Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, et disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des autres trompettes dont les trois anges vont sonner. »
Le cinquième ange sonna. Je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'atmosphère furent obscurcis, par la fumée sortant du puits. De cette fumée, des sauterelles sortirent et vinrent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qui causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort les fuira. Ces sauterelles avaient une ressemblance avec des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à des couronnes d'or, et leur visage était comme un visage humain. Ils avaient des cheveux semblables aux cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui foncent au combat. Ils ont des queues semblables à des queues de scorpions, avec des aiguillons. C'est dans leur queue que réside leur pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ils ont comme roi sur eux l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et qui a pour nom en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il y a encore 2 malheurs après cela.
Le sixième ange sonna. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, délie les 4 anges. Qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Alors, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des troupes de cavalerie était de 20 000 fois 10 000. J'entendis le nombre. C'est ainsi que je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. La tête des chevaux était comme la tête du lion. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. De ces trois fléaux, le tiers des hommes fut tué, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux réside dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à un serpent. Elle a une tête et c'est par elle qu'ils font du mal.
Les hommes qui restaient, ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne revinrent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne revinrent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur débauche, ni de leur vol. Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir, nous le buvons à midi et le matin, nous le buvons la nuit, nous buvons et buvons, nous creusons une tombe dans les cieux, on n'y est pas serré. Un homme habite la maison qui joue avec les serpents, qui écrit quand le jour baisse à l'Allemagne, tes cheveux d'or, Margaret. Il écrit, il va devant la maison et les étoiles étincellent, il siffle ses grands chiens, il siffle ses juifs, fait creuser une tombe dans la terre. Il nous ordonne, jouez pour qu'on danse. C'est avec ces paroles que commence le poème peut-être le plus connu d'un grand poète du siècle passé, Paul Celan, qu'il a écrit à peu près en 1945, face à l'horreur de la Shoah, face à l'horreur des camps de concentration dans lesquels il venait de perdre ses deux parents. Quand on lit ce genre de texte, si on est tant soit peu sensible à la puissance des mots, on ne peut qu'être remué, me semble-t-il. La poésie utilise des images étranges, bizarres, qu'on ne comprend pas forcément très bien. Et néanmoins, elle nous parle. Quand je lis ça, je vois les noirs de l'aube, je vois devant moi ces cheminées des crématoires d'Auschwitz qui crachent leur fumée grisâtre dans un ciel indifférent. Bien sûr, si on veut comprendre plus en détail ce genre de texte, il va falloir creuser, il va falloir s'intéresser à toute l'œuvre de cet artiste. Il faut la lire, peut-être relire, il faudra lire des commentaires, il faudra lire ses sources, les choses qu'il a lues, peut-être sa correspondance. Bref, il y a tout un travail, si on veut vraiment comprendre dans le détail. Mais il n'empêche, même une première lecture fait déjà résonner quelque chose en nous, me semble-t-il. Et, à mon avis, il en est de même avec l'Apocalypse. Certes, l'Apocalypse, ce n'est pas de la poésie. Ça appartient à un autre genre littéraire. Mais un genre qui, lui aussi, utilise des images qui frappent. C'est un texte qui est destiné, une épître, je l'ai dit, une épître destinée à la lecture publique. Et je crois que si vous voulez comprendre l'Apocalypse, il faut commencer par là, vous laisser prendre par ces images, par les tripes. Vous laisser parler ce texte avant de chercher à comprendre dans le détail ce qu'il veut dire. Et si vous voulez comprendre, ça sera l'étude de toute une vie qu'il faudra sans doute. Mais là aussi, si vous voulez comprendre, il va falloir vous intéresser à ce texte dans son ensemble, et puis à ses racines, à ces endroits où, d'où il tire sa sève, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Vous savez, il y a des gens qui lisent l'Apocalypse comme on lit dans le Marthe Café. Et je crois que c'est vraiment une mauvaise façon de l'apprendre. J'ai un jeune frère qui m'écrit souvent et qui est tout à fait dans cette démarche-là et qui récemment encore m'a écrit qu'enfin, il avait compris que l'antéchrist, c'était Barack Obama. Je crois qu'il loupe ce qui est vraiment important dans ce livre, avec ce genre de démarche. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup de temps dans ce genre d'entreprise totalement inutile à mes yeux. Récapitulons un petit peu ce que nous avons vu jusque-là dans ce livre mystérieux. Chapitre 1er, c'est la vision du Christ ressuscité par Jean. Et le Christ le charge d'envoyer une lettre aux églises de l'Asie mineure. Vous avez ensuite des petits paragraphes consacrés à chacune de ces 7 églises. Et puis au chapitre 4 et 5, ce texte nous fait assister à un culte dans les lieux célestes, un culte au cours duquel l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, reçoit un livre mystérieux scellé de 7 sceaux et il va peu à peu les ouvrir. Et ça c'est l'objet du chapitre 6e, où nous avons l'ouverture des 6 premiers sceaux. Nous avons vu les 4 premiers sceaux, ce sont des calamités qui frappent la terre, les 4 chevaliers de l'Apocalypse bien connus. Ensuite, le 5e sceau, c'était une scène que Eric a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire les saints sous l'autel, hein, les chrétiens persécutés qui demandent à Dieu de les venger, et il leur est dit d'attendre encore un peu. Et puis vous avez le 6e sceau qui, nous l'avons vu, nous amène à la fin de l'histoire, c'est-à-dire les événements précédant immédiatement la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, qui précède immédiatement le jugement dernier. Nous avons vu que cette scène est assez terrible parce que les hommes pris au piège face au jugement qui les attend, ils crient aux rochers de tomber sur eux, de les écraser. Ils veulent se cacher devant celui qui est sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et ils disent, qui peut tenir debout face à cela? Et le chapitre 7e que nous avons vu la dernière fois, le chapitre 7e apporte la réponse à cette question. Il dit, il y a des gens qui peuvent se tenir debout et ils sont même sans nombre. C'est le peuple élu de Dieu, montré sous ces deux aspects. Le peuple qui a reçu donc ce sceau de protection de Dieu, dont il sera encore question aujourd'hui. Et puis, ce peuple, il est innombrable, il est de toute langue, de toute nation. Vous savez de qui il est question. Ceux-là, ils se tiennent devant celui qui est sur le trône et devant l'agneau. Et nous arrivons maintenant au chapitre 8e. Chapitre 8e qui commence enfin par l'ouverture du sceau qui nous manque encore, le 7e sceau. Et enfin, le rouleau sera ouvert. Jusque-là, il est fermé. C'est qu'à l'ouverture du dernier sceau qui se déroule. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui peut maintenant nous attendre? Est-ce que nous allons avoir un aperçu du jugement? Ou peut-être même de l'état de l'au-delà, du ciel, de la terre, un voyage un peu comme Dante l'a pu le faire. Est-ce que nous allons voir cela? Et la réponse vient comme une surprise. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le premier verset du chapitre 8 nous dit « Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. » Silence. Jusque-là, il y avait du bruit dans le ciel. Je voulais rappeler, il y avait ce culte énorme où participaient, où priaient, en fait, d'abord les 4 êtres vivants, puis les 24 anciens, puis les myriades d'anges, et enfin, toute créature participait à cette prière qui montait à Dieu. Nous avons entendu dans les lieux célestes ces cris des chrétiens persécutés qui demandent vengeance, et nous avons entendu jusque-là le cri de ceux qui sont pris au piège par le jugement. Donc il y a comme un brouhaha dans les lieux célestes. Mais maintenant, tout d'un coup, Quand le septième sceau est ouvert, silence. Tous les yeux sont rivés sur l'agneau qui vient d'ouvrir ce sceau. Mais Jean ne nous montre pas encore la fin. C'est un peu comme dans les séries américaines, quand la tension est au sommet, tout d'un coup, on change de sujet. Il revient en arrière, parce qu'il a encore des choses à nous dire sur ce qui précède ces moments particuliers. Et nous voyons donc d'autres visions, et la première vision est très intéressante et très importante, me semble-t-il, pour comprendre ce qui se passe dans les textes que nous venons d'écouter. C'est qu'il y a un ange qui vient avec un encensoir, et il met dans cet encensoir de l'encens, bien sûr, et puis il met les prières des saints, sans doute les prières de ces martyrs que nous avons entendus crier à Dieu. Et il ajoute du feu de l'autel. Et là, la fumée monte, et puis il prend cet encensoir et il le balance sur la terre. Et sur la terre, ça fait des dégâts. Hein ? On entend des éclairs, des tonnerres, des voix et un tremblement de terre. Hein ? Ça, c'est vraiment les manifestations de la sainteté dans un monde déchu. Hein ? On pense bien sûr au Sinaï, mais aussi à bien d'autres visions de ce type. Hein ? Et ce qu'il faut voir là, me semble-t-il, c'est que le carburant des jugements qui tombent sur la terre, c'est certes la sainteté de Dieu qui est représentée ici par le feu, par les braises de l'autel. Mais il y a une autre composante, ce sont les prières des saints. Ces prières-là sont loin d'être sans effet et contribuent à l'opération de ce jugement-là. Que ça nous plaît ou pas, c'est bien ce que semble suggérer notre texte. Et puis, après cette scène, nous voyons apparaître sept anges, et ces sept anges reçoivent chacun une trompette. Et ils vont peu à peu sonner chacun de ces trompettes, et ils vont par là même déclencher des événements. Alors, le mot trompette déjà nous donne un indice sur quoi il s'agit. Vous avez sans doute pensé à Jéricho, où vous avez aussi ce mélange de silence et de trompette, un peu comme dans cette scène ici. Ce qui sera prononcé ici, ce qui sera manifesté, ce sont des jugements. Alors, nous allons rapidement passer en revue ces différents jugements. Mais je vous rappelle ce que je viens de dire. Je pense que nous ne sommes pas en mesure de comprendre tous les détails de ce qui suit. Mais je vous propose de vous laisser saisir par le texte. Et puis je vais essayer de vous donner quelques éléments de l'Ancien Testament, notamment, qui peuvent nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Mais il restera des questions ouvertes. Je n'ai pas la science infuse des temps de la fin. Le premier ange sonna de sa trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Ça, pour les fins connaisseurs de l'écriture que vous êtes, vous avez tout de suite compris que c'est une allusion directe à une autre catastrophe décrite dans les Écritures. C'est une des 10 plaies d'Égypte. Plus précisément la septième, où précisément il nous est dit qu'une grêle de feu mêlée de feu est jetée sur la terre d'Égypte. Donc nous sommes dans la même configuration, et nous allons y revenir tout à l'heure, que dans les jugements qui ont frappé l'Égypte. Et la conséquence de ce jugement, c'est que la création est atteinte. Et plus précisément la terre, les arbres et toute herbe verte. Donc ce sont des éléments de la création qui sont atteints et des éléments qui sont nécessaires pour la subsistance de la vie sur la terre. Les arbres, je crois qu'il faut voir là surtout les arbres fruitiers et puis toute herbe verte. Pour une civilisation d'éleveurs, c'est une grande catastrophe. Et toute la chaîne alimentaire, bien sûr, est concernée. Mais j'attire aussi votre attention sur ce mot « un tiers », qui revient pas moins de 12 fois dans ces versets qui décrivent les quatre premières trompettes. C'est toujours un tiers de la terre, un tiers des arbres, puis un tiers de la mer, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, me semble-t-il, c'est que ce sont des jugements qui sont encore limités dans leur étendue. C'est très significatif, un tiers, mais c'est encore minoritaire, et c'est loin d'être la totalité. Ce sont des jugements limités. Pour vous qui connaissez maintenant les premiers chapitres de l'Apocalypse, vous savez que Dieu est totalement souverain dans tout ce qui se passe dans ce livre. C'est Dieu qui provoque ultimement ces choses. Mais nous avons ici une certaine retenue imposée par Dieu. Ces choses-là frappent le monde, mais d'une manière encore limitée. Et probablement, même si ce n'est pas clairement dit ici, probablement, ceci sont des coups de semonce destinés à réveiller les gens, à leur dire, voilà, vous n'êtes peut-être pas encore atteints, mais prenez garde. Et nous verrons par la suite, dans la suite du livre, que les jugements de la fin, finalement, deviendront de plus en plus étendus. Mais pour l'instant, c'est limité, ce que signifie, me semble-t-il, ce tiers. Le deuxième ange sonna, quelque chose comme une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Et les conséquences, cette fois-ci, concernent la mer, les créatures vivant dans la mer, et puis la flotte marchande. Alors, les gens se sont évidemment lancés dans toutes sortes de spéculations concernant l'identité de cette grande montagne embrasée. On a pensé notamment à des volcans. Jean avait sans doute entendu parler de grandes éruptions volcaniques. Peut-être ça a pu l'inspirer, mais je crois que véritablement la racine de cette expression est ailleurs. Et d'ailleurs, un peu plus loin, dans l'Apocalypse, au chapitre 18, il sera question de la chute de Babylone. C'est vraiment un des grands thèmes de l'Apocalypse, que nous n'avons pas encore touché. Babylone représentant sans doute Rome, et puis au-delà de Rome, le système mondial, le système économico-idéologique, si j'ose dire, ce qui domine le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je crois qu'il faut voir tout cela derrière Rome et Babylone. Et quand il est question du jugement de Babylone, il y a un ange qui met en scène ce jugement. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une grosse pierre et il la jette dans la mer. Et c'est intéressant que dans un texte du prophète Jérémie, il est question justement de Babylone. Et c'est ça qui me semble déterminant. Babylone est appelée une montagne embrasée. Donc, si on met ces choses ensemble, je vous suggère, je vous propose cette interprétation qui me semble la plus raisonnable que j'ai entendue, de voir derrière cette montagne embrasée qui est jetée dans la mer, de voir derrière cela la chute de Babylone, la chute du système mondial d'influence et de pouvoir. En tout cas, nous voyons l'impact qui concerne cette fois-ci la mer, qui est aussi source de nourriture, évidemment, source de subsistance pour les hommes. Un tiers de cette mer se transforme en sang. Donc là, vous avez de nouveau une allusion, me semble-t-il, aux plaies d'Égypte. Et maintenant, donc, c'est pas seulement l'herbe, les plantes, mais aussi la mer qui est concernée. Le troisième ange sonne de sa trompette. Une grande étoile tomba du ciel, brûlant comme une torche. Elle tomba sur le tiers des fleuves, sur les sources des eaux. Donc cette fois-ci, c'est l'eau douce qui est concernée par ces catastrophes. Et là encore, vous imaginez bien que l'imagination fertile des commentateurs a fait des merveilles. Mais beaucoup d'entre eux ont pensé notamment à des météorites. L'image est vraiment un peu ça. C'est vrai. Personnellement, je penche vers une interprétation un peu plus symbolique, parce que quand on regarde les sept trompettes ensemble, on se rend compte que L'interprétation ne peut pas être littérale. En tout cas, c'est ma compréhension. Et chaque fois que vous avez dans l'Écriture des astres qui tombent, il y a, enfin, me semble-t-il, à chaque fois une référence à des choses spirituelles qui se passent, et notamment à des anges, et des anges déchus, hein, tels que Satan et sa cohorte. Hein. Vous avez au chapitre 12 le grand dragon rouge qui va entraîner dans sa chute un tiers des astres. Donc quand les astres tombent, souvent, nous avons là une allusion à ces réalités-là, mystérieuses, mais il semble y avoir eu des anges hein, qui ont mal tourné. Et ici, en lien avec la trompette précédente, personnellement, je vois ici l'ange de Babylone qui tombe. Alors vous dire que c'est un peu extraordinaire comme interprétation, mais je vais vous lire un texte d'Ésaïe sur le roi de Babylone, qui se trouve au chapitre 14 d'Ésaïe, verset 12, et il dit « Comment ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations ?» Et il parle du roi de Babylone. Donc il est possible que cette trompette nous décrive de nouveau la chute de Babylone, mais cette fois-ci pas vue sous l'angle matériel, économique, mais dans sa dimension spirituelle. Parce que ce système qui gouverne le monde, il n'est pas uniquement un système d'influence économique. C'est ça que nous voyons, que nous pouvons voir en ouvrant le journal. Mais il y a derrière tout ça aussi des forces spirituelles associées, hein, un système profondément idolâtre, hein, qui sera jugé par Dieu. Et c'est l'objet de notre livre. Ce système qui adore Mammon. Hein, et Jésus nous a dit, vous ne pouvez pas adorer, servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas les deux. Hein. Donc il y a aussi une dimension spirituelle à ce système-là, et cette dimension aussi sera jugée. Et c'est en tout cas c'est ce que j'entends dans ce troisième trompette, cet astre qui tombe et qui va avoir un impact, cette fois-ci, sur l'eau douce. Le quatrième ange sonna, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, pour qu'il soit obscurci d'un tiers. Donc ça, c'est de nouveau un rappel des plaies d'Égypte. Vous avez eu aussi une plaie d'obscurcissement, c'était la neuvième plaie pour être précis, celle qui précédait la mort des premiers-nés. Et là, il est difficile de nouveau, peut-être c'est quelque chose à prendre au sens littéral, c'est-à-dire une espèce de fumée qui empêche la lumière de pénétrer, d'arriver à la surface de la terre. Personnellement, comme je vous ai dit, je penche plutôt vers une interprétation symbolique. Et je vois là que les temps de la fin seront des temps obscurs. La lumière n'est plus entièrement, on ne voit plus très clair, on tâtonne, on est un peu perdu. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et qui disait « malheur, malheur, malheur ». Jusque-là, nous avons vu les quatre premières trompettes qui concernent à chaque fois un élément de la création. Les herbes, la terre, hein, la mer, l'eau douce, et ensuite la lumière, l'atmosphère, pourrait-on dire. Hein. Et maintenant, on passe à un autre registre. Et les deux trompettes que nous allons encore voir sont des trompettes proprement démoniaques. Il y a là quelque chose qui se passe qui est différent, et les cibles de ces jugements sont plus la création, mais c'est directement certains hommes, et plus précisément des hommes qui n'ont pas reçu sur leur front le sceau de Dieu. Alors, le cinquième ange sonna, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfer sur la terre. Il y a un ange, là encore une étoile qui tombe, mais après on voit bien que c'est un ange. Et cet ange reçoit une clé, et cette clé, elle ouvre un endroit horrible, hein, le puits de l'abîme. Et quand il ouvre ce puits, il en sort de la fumée et puis il en sort des monstres redoutables, des espèces de sauterelles, allusion bien sûr à une des plaies d'Égypte, la huitième. Mais ce ne sont pas des sauterelles habituelles, ce ne sont pas des animaux qui s'attaquent à l'herbe. Hein. aux plantes. Non, là, ce sont des êtres bizarres. Ce sont à la fois des sauterelles et puis ils ont des têtes de chevaux, me semble-t-il. Hein. Et puis des queues de scorpions. Hein. Donc ce sont des monstres très bizarres mais redoutables, hein, qui montent là et qui clairement marquent une influence démoniaque. Hein. Leur chef, c'est le roi. Le roi, pardon, c'est l'ange de l'abîme, hein, qui porte le nom Abaddon ou Apollyon, ça veut dire destructeur. Hein, donc nous sommes là clairement dans le domaine démoniaque. Et cette cohorte redoutable, ces sauterelles, inondent la terre et accomplissent leur œuvre de tourment. Hein. Ils ne tuent pas, mais ils font souffrir. Ils ont un aspect redoutable et en même temps peut-être quelque chose de séduisant. Leurs cheveux, nous est-il dit, sont comme les cheveux des femmes et ils ont des queues de scorpions par lesquelles ils piquent les hommes et leur injectent des souffrances. Alors, je crois que là, plus personne prétend qu'il faut y voir une interprétation littérale, c'est-à-dire des sauterelles, scorpions, qui viennent piquer uniquement les non-croyants. Il est bien clair que là, nous sommes dans un texte qui véhicule des images et qui veut nous faire comprendre que ces temps de la fin seront marqués par une influence marquée démoniaque, qui fera énormément souffrir les gens et qui ne frappe que les non-croyants. Ce qui veut dire que les croyants, ils sont protégés de par leur foi de ces assauts-là. Alors, je ne sais pas vous dire exactement ce que c'est, mais je crois qu'il y a là un avertissement assez sévère. Et je crois que nous ne sommes pas là en train de parler d'un événement qui va peut-être un jour se produire. Si je comprends bien ces textes-là, nous y sommes. Hein. Les trompettes, on les entend. Vous les entendez en ouvrant le journal. Hein. Et dans ces temps de la fin, et pour l'Écriture, les temps de la fin, ce sont le temps qui sépare l'ascension du Christ de son retour. Dans ces temps de la fin, il y aura ce genre d'influence démoniaque sur les gens qui n'auront pas la foi, qui n'auront pas l'esprit en eux. Et cela leur causera d'énormes souffrances, notamment morales, je pense. Enfin, le sixième ange sonna, et puis là, les choses s'aggravent encore. Hein. Là, on voit quatre anges exterminateurs qui sont relâchés. C'est peut-être les quatre chevaliers de l'Apocalypse que nous avons vus dans les sceaux. C'est possible. En tout cas, ces quatre anges sont relâchés et ils entraînent à leur suite toute une cavalerie de monstres encore. Cette fois-ci, ce ne sont pas des criquets. Cette fois-ci, ce sont des chevaux, mais là encore des chevaux très particuliers avec des têtes de lion et des queues de serpent. Et il nous est dit, c'est dans leur bouche que réside le mal qui font. C'est par elles qui font du mal. Alors là, vous savez, j'aurais sans doute utilisé une imagerie qui correspondait à une des angoisses de son époque. Vous savez, l'Empire romain était angoissé d'être envahi par les barbares, et notamment par les Parthes, qui étaient au-delà de l'Euphrate, hein, et qui menaçaient tous les jours d'envahir l'Empire et de créer le bazar, bien entendu. Hein, c'était une des grandes angoisses. Donc peut-être il y a un peu de ça dans cette imagerie de cavalerie qui vient en grand nombre. Mais en tout cas, là encore, c'est clairement quelque chose de l'ordre démoniaque. C'est lié à ces quatre anges exterminateurs. Et cette fois-ci, on tue. C'est ça la différence par rapport à la trompette précédente. Cette fois-ci, on tue. Et on tue par cette... par la bouche. C'est dans la bouche, dans la tête, hein, que ces monstres font du mal. Donc on peut penser, hein, même si je ne peux pas vous le prouver, qu'il s'agit là d'idéologies, d'inspiration démoniaque qui font énormément de dégâts dans l'humanité et qui tuent. Cette fois-ci, on y va carrément. Les hommes qui restaient, ceux qui ne furent pas tués par ces flots, ne revinrent pas de l'œuvre de leurs mains. Donc le dernier paragraphe de notre chapitre nous dit que si c'était pour susciter la repentance, ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que Dieu frappe à travers ces jugements, ce semble être l'idolâtrie. C'est vraiment l'idolâtrie, le mal le plus profond, hein, et puis toutes les choses qui en découlent, les meurtres, la sorcellerie, la débauche, les vols. Mais au fond, on en vient à l'idolâtrie. Parce que la faute de base, si j'ose dire, c'est d'avoir remplacé Dieu par autre chose. Hein. Et c'est là que se greffent tous les autres maux, en fait. Hein. Le problème de base, le péché le plus profond, c'est d'avoir délogé Dieu de son trône. Hein, et tout le reste en découle. Alors, que dire ? Que dire face à ce déferlement de violence, de malheur, de cris et de mort ? Je pense que si Jean nous ramène en arrière pour contempler cela, c'est qu'il a encore un complément d'information à nous donner. Vous savez, on a vu les sept sceaux, et déjà il y avait un peu de ça dedans, même si tous les détails n'y étaient pas. Et les sept sceaux étaient destinés à faire comprendre aux chrétiens à qui Jean écrit qu'ils étaient protégés. Et que ces malheurs qui allaient les frapper, en fait, servaient de révélateurs de leur état. En résistant à ces malheurs, ces gens-là manifestent leur élection. Ils ont le sceau de Dieu et nous savons qu'ils seront victorieux, hein, mais il faut passer par ces malheurs pour le mettre en évidence. Voyez, et la différence avec les sept trompettes maintenant, c'est qu'on change d'angle de vue. Je crois qu'on regarde les mêmes événements, grosso modo. On regarde toujours cette époque dans laquelle nous vivons, qui sont les derniers jours. Mais à la différence des sept sceaux, on considère maintenant quelque chose qui ressemble aux plaies d'Égypte. Qu'est-ce que c'est les plaies d'Égypte ? Dans les plaies d'Égypte, Dieu frappe l'Égypte parce qu'elle ne veut pas laisser partir Israël. Au fond, c'est à nouveau un problème d'idolâtrie, hein, parce qu'ils ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu et quand Dieu donne l'ordre « Vous laisserez partir mon peuple », ils résistent. Ce qui veut dire qu'ils mettent autre chose à la place de Dieu. Hein. Et les experts ont mis en évidence que les plaies d'Égypte frappent à chaque fois une divinité du panthéon égyptien. Enfin, elles sont ciblées sur ça. Donc, Dieu frappe le peuple d'Égypte à travers le pharaon qui le représente parce que ce peuple résiste à Dieu. Et cette résistance entraîne de nouveaux frappes, de nouvelles frappes. Et puis, ainsi de suite. Hein, et ça culmine... Dans la fin de l'armée égyptienne, comme vous le savez. Donc, là de nouveau, ces plaies servent à la fois de punition, mais, c'est plus intéressant, de révélateur. Hein? Ces plaies révèlent ce qui est vraiment la motivation des Égyptiens. Nous apprenons quelque chose sur eux en les voyant résister de plus en plus. Hein? Et on voit à quel point ils sont endurcis. Et je crois que c'est ça que nous véhiculent aussi les sept trompettes. Ces sept trompettes servent aussi de révélateur de l'état de l'humanité. Et à la fin, même après tout ça, aucune repentance à l'horizon. Il y a cette vieille boutade qui dit, pour savoir ce qu'il y a dans un homme, c'est comme une bouteille de ketchup. Hein, il faut appuyer dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Et Et c'est ça que nous voyons dans l'Apocalypse. C'est ça que nous voyons dans les sept sceaux. Vous appuyez sur les élus de Dieu, et qu'est-ce qui sort ? La persévérance jusqu'au bout. Vous appuyez sur les non-croyants, et qu'est-ce qui ressort ? Leur endurcissement. Donc, ces sept trompettes nous montrent sous un autre aspect que finalement, tous ces malheurs révèlent des choses pour les chrétiens, leur élection, pour les autres, leur endurcissement et finalement leur perte. Mes amis, Dieu juge. Difficile de ne pas le voir. Mais je crois que nous, chrétiens répus de l'Occident, nous avons besoin de ces textes pour ne pas oublier ce que c'est le monde et ce que c'est le temps que nous vivons. Si vous prenez l'Apocalypse, elle nous dit sur ce temps de la fin que ce sera un temps tourmenté. Et vous ne pouvez pas vous attendre à autre chose. Alors il est vrai que nous sommes encore relativement confortablement installés. Et nous sommes relativement à l'abri des bouleversements que vit le monde. De moins en moins peut-être, mais encore. Et nous vivons dans une abondance encore assez stupéfiante quand on considère l'histoire de l'humanité et la vie dans le monde aujourd'hui. Et il me semble que ces textes nous disent, attention les amis, ne vous trompez pas sur le monde dans lequel vous vivez. Ne vous installez pas dans votre bulle, ouvrez les yeux. Il y a des difficultés à l'horizon et il ne faut pas en être surpris. C'est ça. Ne mettez pas votre espérance dans le monde. Mettez votre espérance dans des choses moins passagères. Et je voudrais terminer avec une parole du psalmiste, psaume 96, qui, me semble-t-il, nous permet de remettre les pendules à l'heure. Il dit, prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté. Tremble devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, c'est le Seigneur qui est roi. Il juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qui s'y trouve, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples par sa constance.